Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour 10h31 avec vos chroniqueurs préférés. Et je voulais faire un petit retour sur l'entrevue qu'on a eue, qui malheureusement n'a pas duré assez longtemps. C'était si intéressant et justement, surtout je trouve, ben, surtout pour nous, je sais pas, mais je trouve que en tant que personne qui étudie l'œil et la politique, je trouvais ça super intéressant. C'est au cœur des enjeux sociétal actuels et justement, c'est... Et c'est une idée, tu sais, on va pas s'attarder là-dessus, mais est-ce que la recherche et le dépassement technologique va régler justement les enjeux environnementaux? C'est dans cette idée-là, et justement, c'est au cœur de ces discussions. Et lui, clairement, il va peut-être nous apporter une réponse dans le futur. Donc, c'était super intéressant. Il m'a parlé rapidement là, après l'entrevue qu'il y avait un podcast justement pour tous ceux qui voulaient s'attarder sur le neuromorphique ou en savoir plus. Donc, il y a un podcast disponible sur Spotify. Ça s'appelle Un instant de génie. C'est fait par Bertie Gouin-Ferland. Et c'est ça. Je vais lire sa description. Là. Je viens vraiment juste de voir ça. Donc, bienvenue à Un instant de génie, un balado dans lequel j'explore pour vous des sujets liés à l'ingénierie et aux technologies tout en soulignant leur pertinence ou pas dans la vie quotidienne. Il y a des épisodes sur ampoule à incandescence ou à DEL, pourquoi avez-vous reçu un air fryer pour Noël et aussi votre entourage, es-tu un algorithme, le réseau des neurones artificiels. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ça a l'air super intéressant et c'est des petits balados, ça dure 4 minutes, 3 minutes. Super, des petits morceaux informationnels. Donc, allez voir ça. C'est disponible sur Spotify, Un instant de génie. Et là, on va aller, en fait, c'est ça, pour une petite chronique de Marc-Antoine en ce qui concerne le regard sur l'aide militaire canadienne en Ukraine.
Merci, Jérémy. Donc, pour commencer, il y a un sondage de la firme Léger qui a illustré une augmentation de l'appui des Canadiens concernant l'aide à l'Ukraine. Surtout au niveau de fournir du matériel militaire comparativement à l'automne dernier. À titre indicatif, on est passé de 20 % cet automne à 25 % en février 2024. D'ailleurs, samedi, c'était le deuxième anniversaire du déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pour ce qui est du contexte du conflit, il y a eu notamment le retrait des troupes ukrainiennes d'Ad à cause du manque d'armement, entre autres. Il y a un blocage pour l'aide des alliés américains qui est toujours stoppé à la Chambre des représentants puisque les républicains refusent de lire le texte concernant l'aide à l'Ukraine. Il y a une rencontre qui va être après l'émission vers 11h30 avec les principaux responsables des deux parties au Congrès et le président Biden pour tenter de débloquer l'aide.
On se demande s'il va traiter quelqu'un de sub. C'est une blague. Ouais. Non, clairement pas.
Non, je pense pas malgré le contexte actuel.
Non, que Biden va traiter quelqu'un de son of a bitch. Donc, je m'excuse, Marc-Antoine, d'avoir été en plus. Il faut en rire à la fin de la journée. Il faut en rire un petit peu parfois, je trouve. Des fois, c'est...
Puis il y a eu celle de l'Union européenne qui a été bloquée temporairement, mais qui a été résolue depuis le sommet des 27, dont j'avais fait mention à ma chronique il y a quelques semaines. Concernant l'armement, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne lors de la conférence de Munich sur la sécurité de la semaine dernière, a souligné que si les décisions en matière de livraison d'armes et d'aide à l'Ukraine avaient été plus rapides, peut-être que la guerre avait été différente. Pour revenir très brièvement sur le sondage, outre le 25 % mentionné en introduction, 34 % favorise le statu quo de l'engagement canadien et 23 % souhaite que celui-ci diminue son envoi de matériel militaire. Donc, qu'en est-il de l'aide militaire canadienne à l'Ukraine 2 ans après le conflit? Il y a 58 % de la valeur de l'aide en équipement militaire totalisant 2,4 milliards de dollars depuis le début du conflit promis à l'Ukraine par le Canada qui n'a pas été honoré. Parmi le matériel en question. Il y a le système NASAM, qui est un système de défense anti-aérien fait par les Norvégiens. Il y a aussi les caméras de haute résolution pour les drones, qui sont essentielles pour l'Ukraine parce qu'il y a une augmentation assez importante des attaques aériennes par la Russie depuis la fin de l'année dernière. Christian Leprech, professeur au Collège militaire royal du Canada, constate l'impact des retards du matériel canadien à l'Ukraine au niveau international en mentionnant qu'il est clair que la parole du gouvernement quant au soutien durable du Canada sur lequel l'Ukraine peut compter n'est pas en phase avec la réalité et cela a un impact autant sur le champ de bataille que sur l'image du Canada auprès de nos alliés, alliés qui nous perçoivent de plus en plus comme indifférents face à cette guerre et surtout peu fiables. Il appelle à un développement de l'industrie militaire pour honorer ses engagements plus rapidement. Samedi, jour du deuxième anniversaire du conflit, notre premier ministre était à Kiev avec la première ministre d'Italie, la présidente de l'Union européenne, Mme von der Leyen, et Alexander De Croo, premier ministre belge. Ces derniers ont d'ailleurs répondu à l'appel de M. Zelensky pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Et M. Trudeau a profité de son passage en Ukraine pour annoncer un accord bilatéral de sécurité atteignant la somme de 2,7 milliards de dollars. Le contenu, pour brièvement aborder sur le contenu de l'accord, c'est qu'il y a 2,4 milliards de dollars en prêts qui vont servir à assurer le maintien du gouvernement et contribuer à rebâtir l'économie, ainsi que 322 millions de dollars pour de l'aide militaire et de la formation. Les nouveaux engagements vont être analysés par les alliés du Canada, qui le critiquent notamment pour ne pas respecter le 2 % du PIB fixé par l'OTAN. À titre indicatif, on est entre 1,3 et 1,4 % du PIB, alors que la Pologne, qui est un voisin proche de la Russie, est à 4 % du PIB. Hier, M. Trudeau était en Pologne et a reconnu que le Canada devait en faire plus, tout en soulignant que le pays est le septième contributeur à l'OTAN parmi les 31 pays membres, qui seront d'ailleurs bientôt 32 avec l'entrée de la Suède, permise par l'accord du Parlement hongrois hier.
Moi, je voulais dire, Marc-Antoine, en fait, c'est vraiment une blague, là, mais ça m'a fait si rire. Je ne sais pas si vous connaissez Louis T., l'humoriste.
Oui, oui.
Donc, humoriste québécois très connu, quand même. Et Louis T. a fait une blague, il a dit... là, il référait en fait à un événement du 17 janvier. Mon Dieu, j'ai même pas la date. En tout cas, Trudeau, il défendait son séjour chez des amis en Jamaïque pendant les fêtes.
Ouais,
je
ne
sais
ouais,
pas
ouais.
si ça vous rappelle quelque chose. Il y a eu une enquête au commissaire de l'éthique. Et Louis T. a dit... mon Dieu, quand même, ça coûte moins cher les vacances en Jamaïque que les vacances en Ukraine. Donc, dans l'idée que Trudeau devrait peut-être plus souvent aller en Jamaïque, moins souvent en Ukraine, ça coûterait moins cher pour les contribuables québécois. Et ça m'a fait très rire. Là, je dis pas que c'est ça qu'on doit faire, mais ça m'a quand même fait rire qu'au final... Bref, c'est des petits gags. Je recommande fortement à suivre Louis T. Sur Twitter. Il fait justement des petits gags, une petite phrase comme ça. Et c'est souvent très pointé envers des... le voyage en Jamaïque, c'était cet hiver. Là.
Ouais, pendant les fêtes.
Ouais, c'était pendant les fêtes, c'est ça. Donc, je me demandais si c'était pas comme l'année d'avant. Non, c'était dans les fêtes. Donc, petite pique, au final, ça coûte moins cher aller en Jamaïque qu'aider les Ukrainiens. Puis, à la fin de la journée, c'est une ironie, mais c'est peut-être un petit peu pour ça que tout est en retard aussi pour l'Ukraine. Tu sais, à la fin de la journée, le Canada est peut-être un peu forcé, pour bien paraître à l'international, de fournir cet armement-là.
Mais c'est ça qui est gênant, en fait, avec la question ukrainienne, c'est qu'on parle quand même de familles, de civils qui subissent quand même... Je crois qu'il y a eu... pareil, c'est des dizaines de milliers de personnes décédées. Hein. Je crois que c'est plus de 40 000 morts de
ouais, c'est ça. On a eu les premiers bilans cette semaine, je crois.
Zelensky parlait d'autour de... Entre un 30 peu 000 plus et... que 30 000,
Ok, c'est plutôt vers les...
Dans les soldats ukrainiens.
Et vers les civils, donc ça doit être encore plus que ça.
C'était hier. C'est hier qu'on a eu le...
Si tu, 31 000... peux, si tu peux faire... Et le nombre de civils aussi, c'est qui doit être un chiffre...
J'ai 31 000 soldats ukrainiens, mais je crois pas qu'on a les civils nécessairement qui ont été dits. Il faut dire qu'il nous manque beaucoup de chiffres par rapport à justement à ce conflit-là.
Bah, c'est ça qui est compliqué. Puis le chiffre de civils... moi, je trouve que le chiffre de civils tués est toujours plus impactant en fait que celui de militaires, parce que militaires, c'est des gens qui sont directement impliqués dans une guerre, alors que c'est des civils, ça va être des gens qui vont recevoir littéralement l'oppression de l'impérialisme directement sur eux ou sur leur famille. Et j'ai les chiffres qui seraient tombés le 24 février. Ah non, attendez. Ah non, moi, j'ai les chiffres de janvier 2024, mais ça serait. En tout cas, bref, c'est des chiffres de plusieurs. De dizaines de milliers de morts, notamment dans les civils, ce qui est toujours alarmant quand l'oppression de l'impérialisme s'abat sur des civils et sur des familles. Et donc, ce qui est terrible, c'est qu'on parle quand même d'humains, et on voit qu'il y a un jeu diplomatico-politique, communicationnel, qui se joue là-dessus.
Il joue aux échecs, là.
Les déclarations de Trudeau, comme tu dis, qui sont beaucoup plus politiques, et en fait, c'est de la com', hein, plus que vraiment un côté humain.
Oui, c'est ça, il n'y a pas d'empathie, là, c'est vraiment une obligation politique à l'international.
C'est ça qui est assez terrible, effectivement.
Tu sais, qu'on ne vous dira pas que c'est mal, là, qu'ils donnent finalement de l'aide aux Ukrainiens, tu sais. C'est clairement pas, mais à la fin de la journée, c'est ça, c'est un jeu politique.
Oui, puis après, tu donnes de l'aide aux Ukrainiens, mais sous quel contrat tu le fais, pour quelle raison tu le fais. Si tu aides un pays qui est en guerre pour à la fin que ce pays-là soit dépendant de toi économiquement, bon, voilà, il y a les conséquences aussi. Moi, on voit comment les États-Unis se placent par rapport à la question ukrainienne. Mais ce que je crains, moi, c'est qu'à la fin du compte, c'est que l'Ukraine soit complètement dépendante économiquement de la question états-unienne.
Et là,
l'Ukraine perdrait son autodétermination. Le peuple ukrainien perdrait son autodétermination, qu'il l'a perdu d'ailleurs par rapport à l'État ukrainien lui-même, par rapport à l'invasion de la Russie. Et si en plus de ça, il perd son autodétermination par rapport à la place des États-Unis sur le peuple, l'économie ukrainienne, c'est tout un tas de questions qu'il faut prendre en compte aussi. Et moi, ce qui m'intéressait aussi dans l'enjeu de ta chronique aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a tout un tas de prises de parole qui sont prises un peu à volo. Tout un tas de placements diplomatiques, économiques. On voit que hier soir, Emmanuel Macron a annoncé sans qu'on s'y attende, hein, personne s'y attendait d'ailleurs, d'un coup seul, comme ça, qui annonce dans une conférence de presse nous n'excluons pas l'envoi de militaires occidentaux sur le sol russe. Ce qui est quand même une déclaration offensive immense, qui pourrait avoir des répercussions, encore une fois, qui pourrait avoir des répercussions directes sur le peuple européen, finalement, voilà. Donc, on voit que les implications des différents pays et des différents chefs d'État impérialistes sur ce conflit-là, ils font des prises de parole, mais qui peuvent avoir de réelles conséquences. Et pareil, là, la prise de parole de Macron, qui a été déclarée comme ça en conférence de presse, mais sans qu'ils ne prennent la mesure au sein de l'Assemblée ou au sein de l'armée ou de la population. Il a déclaré ça comme ça. Ce que je trouve assez alarmant, moi, dans une situation de guerre en Europe.
On dirait qu'il perd un petit peu son calme, Macron. Je veux pas couper ta parole, Enzo, mais on va faire une petite pause publicitaire, puis on en reparle directement après. Donc, on s'en va après, nos chers auditeurs. On va parler de Macron.
Je veux avoir ton point de vue là-dessus, qu'on continue là-dessus aussi.
Donc, petite pause publicitaire, on est tout de suite de retour.